La première phase des conquêtes du pays, promis, est terminée depuis longtemps. Mais beaucoup reste à faire. Josué, le vieux général qui a conduit les armées d'Israël à la victoire, se rapproche de la fin de son voyage terrestre. La même chose m'arrivera un jour. Pourrais-je alors me présenter devant Dieu comme un serviteur fidèle à l'image de Josué? Je commence à lire le chapitre 13 tout en simplifiant. Josué était devenu vieux. L'Éternel lui dit, « Te voilà âgé à présent, et il reste encore un grand pays à conquérir. Je déposséderai les populations de ce pays au fur et à mesure de l'avance des Israélites. En attendant, partage-leur déjà ce pays par le sort pour qu'ils le possèdent comme je te l'ai ordonné. Maintenant, procède au partage pour attribuer le pays en possession aux 9 tribus et à la demi-tribu de Manassé. L'autre moitié de la tribu de Manassé et les tribus de Ruben et de Gad ont déjà reçu leur patrimoine. Moïse, serviteur de l'Éternel, le leur a attribué à l'est du Jourdain. Versets 1, 6 à 8. La première phase des conquêtes est terminée. Josué a bien rempli son rôle de commandant en chef des armées d'Israël. Maintenant, il va falloir partager le pays. Sa tâche sera surtout administrative, ce qui convient mieux à un vieux soldat âgé de presque une centaine d'années et fatigué par de longues campagnes militaires. C'est un moment hautement significatif dans la vie de la jeune nation d'Israël. Après des siècles d'esclavage, des décennies dans le désert et au moins 7 ans de guerre, l'heure était enfin venue pour chaque famille de s'installer pour de bon, construire sa maison, planter sa vigne et vivre en paix dans son pays. Je continue plus loin et finis ce chapitre. À la tribu de Lévi et à elle seule, il ne donna pas de patrimoine. En effet, ce sont les sacrifices consumés par le feu qui appartiennent à l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui constitue son bien comme Dieu le lui a déclaré. Verset 14. Plus tard, il sera spécifié que les Lévites, qui devaient bien habiter quelque part, reçurent en partage 48 villes avec les champs alentours pour leurs troupeaux. Nous voici arrivés au chapitre 14, dans lequel a lieu le partage du pays promis, proprement dit, entre les tribus d'Israël. Je commence à lire. Voici les territoires que les Israélites reçurent en possession dans le pays de Canaan. Le prêtre Éléazar et Josué, fils de Noun, assistés des chefs de groupe familial des tribus israélites, les leur attribuèrent. Cette répartition des terres entre les 9 tribus et la demi-tribu se fit par tirage au sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par l'intermédiaire de Moïse. Versets 1 à 2. Selon la tradition, une urne contenant les noms des tribus et une autre ceux des territoires préalablement tracés était en présence. Devant les chefs du peuple, le grand prêtre procédait au tirage à partir de ces 2 urnes. Ça se passait un peu comme pour des élections où lorsqu'on va voter, tout se fait en présence des représentants des divers partis politiques. C'est ainsi que 10 tirages eurent lieu et que le sort désigna un territoire spécifique pour chaque tribu. Cependant, la répartition ne fut aucunement le fruit du hasard d'un coup de dé, car l'Éternel guidait toutes choses en fonction de sa volonté. Je continue plus loin en compressant. Des membres de la tribu de Juda vinrent trouver Josué à Gilgal. Caleb lui dit, « J'avais 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'a envoyé pour explorer ce pays. À mon retour, je lui ai fait un rapport en toute bonne conscience. Alors que les hommes qui étaient venus avec moi ont découragé le peuple, j'ai été pleinement fidèle à l'Éternel mon Dieu. » Ce jour-là, Moïse fit ce serment. « Assurément, ce pays que tu as parcouru t'appartiendra, ainsi qu'à tes descendants pour toujours, parce que tu as été pleinement fidèle à l'Éternel, mon Dieu. » Effectivement, il y a 45 ans depuis que l'Éternel a adressé cette parole à Moïse, pendant qu'Israël voyageait à travers le désert, et il m'a conservé en vie selon sa promesse. Versets 6 à 10. Lorsque la première génération sortie d'Égypte était arrivée aux portes de la terre promise, 12 espions furent envoyés pour explorer le pays. Josué et Caleb en faisaient partie et furent les seuls qui dirent « Allez, on fonce !» Les 10 autres ont réussi à tourner le peuple contre le projet de conquérir le pays de Canaan, sans pour autant avoir de plan de rechange. Ils s'étaient même dit prêts à retourner en Égypte et redevenir esclaves. L'Éternel fut particulièrement furieux contre eux, et suite à cet incident, toute cette première génération a péri dans le désert, à l'exception des 2 espions fidèles. Dieu avait alors fait 2 promesses à Caleb. Une, que sa vie serait prolongée, et 2, qu'il hériterait de la partie du pays qu'il avait personnellement explorée. Il est intéressant de remarquer que, comme Rahab la prostituée, Caleb n'est pas de la race d'Abraham, mais qu'il est Kénizien, un descendant de Canaan, fils de Cham, alors que les Israélites sont issus de Sem. Cham, Sem et Japhet sont les 3 fils de Noé qui ont repeuplé la terre. Pendant les 39 ans à tourner en rond dans le désert, Caleb a souffert, comme les autres, de la chaleur et de la monotonie du voyage. Mais il se souvenait des gros raisins qu'il avait goûtés alors qu'il avait été envoyé en éclaireur. Il avait aussi visité la ville d'Hébron, qu'il avait bien appréciée et que Abraham avait habité des siècles auparavant. Ses souvenirs de la promesse de l'Éternel le gardaient confiant et orienté vers l'avenir. En conséquence, il vient maintenant auprès de Josué réclamer son dû. Je continue. « J'ai aujourd'hui 85 ans et je suis aussi robuste qu'à l'époque où Moïse m'a envoyé en mission. J'ai autant de force qu'alors, soit pour combattre, soit pour mener une expédition militaire. Maintenant, donne-moi cette contrée montagneuse que l'Éternel m'a promise à ce moment-là. À l'époque, tu as appris que des Anakim y habitaient dans de grandes villes fortifiées. Si l'Éternel m'assiste, je les en déposséderai comme il l'a affirmé. » Josué bénit Caleb et lui donna la ville d'Hébron pour patrimoine. C'est pourquoi Hébron appartient encore aujourd'hui aux descendants de Caleb, parce qu'il avait été pleinement fidèle à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Versets 11 à 14. Hébron est situé en montagne à une 40aine de kilomètres au sud de Jérusalem. Alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce vieux combattant, alors âgé de 85 ans, passe ses dernières années à cultiver un petit potager et quelques fleurs, il veut diriger une expédition contre les géants qui avaient terrorisé les 10 autres espions et qui occupent toujours la ville qu'il a décidé de s'approprier. Il croyait en la promesse que lui avait faite Moïse de la part de l'Éternel, qu'il lui donnerait la victoire et que Hébron deviendrait sa possession familiale. Josué a formellement ratifié la demande de Caleb, qui devenait légalement le propriétaire de cette ville, alors même qu'elle était toujours occupée par les Anakim, de très grande stature et formidables guerriers. Le récit de cette conquête est raconté dans le livre des Juges, qui suit celui de Josué. Nous voici maintenant au chapitre 15 qui traite de la portion du pays qui est revenue à la tribu de Juda, dont Caleb fait partie. Je commence à lire le texte. Le territoire que le tirage au sort attribua aux familles de la tribu de Juda s'étendait au sud jusqu'à la frontière d'Édom dans le désert de Tsin, vers le Négev, à l'extrême sud. Verset 1. La suite du texte décrit en détail le contour de ses frontières. Au début, Juda était environné d'ennemis. Les Moabites, les Édomites, les Amalécites et les Philistins. Les limites ouest et est de Juda étaient constituées par la Méditerranée et la Mer Morte. C'était la plus importante des tribus et elle reçut le plus grand des territoires qui était parfait pour la culture de la vigne. C'est d'ailleurs de là, dans une des vallées qui s'appelle « Vallée de la Grappe », que les espions avaient ramené d'énormes raisins. La primauté de cette tribu ressort ici comme l'avait prophétisé Jacob, l'ancêtre de la nation d'Israël, que je cite. « Ô toi, Judas, tes frères te rendront hommage. Ta main fera ployer la nuque de tes ennemis, et les fils de ton père se prosterneront devant toi. Le sceptre ne s'écartera pas de Judas, et l'insigne de chef ne sera pas ôté d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de celui auquel ils appartiennent et à qui tous les peuples rendront obéissance. Son âne, il l'attache à la vigne et à un cep de choix, le petit de l'ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et nettoie son manteau dans le jus des raisins. » Fin de citation. Faisait aussi partie du territoire de Juda la vallée de Ben-Hinnom au sud-ouest de Jérusalem. C'est là que les Cananéens sacrifiaient des enfants à leur idole Moloch en les faisant passer par le feu. Plus tard, les Israélites y jetteront et brûleront les immondices de la ville. Le nom hébreu de cette vallée a donné en français le mot « Géhenne » et est devenu le symbole du lieu de malédiction pour les ennemis de Dieu. Je continue plus loin en compressant. Caleb, fils de Yefouné, reçut une partie du territoire de Juda comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Hébron. Caleb en déposséda les trois descendants d'Anak. De là, il partit attaquer les habitants de Débir, qui s'appelaient autrefois Kiriath Sefer. Caleb fit savoir qu'il donnerait sa fille Aksa en mariage à celui qui s'emparerait de Kiriath Sefer. Son neveu Othniel, fils de son frère Kenaz, s'en rendit maître, et Caleb lui donna sa fille Aksa en mariage. Lorsqu'elle fut arrivée auprès de son mari, elle l'engagea à demander un certain champ à son père Caleb. Puis elle sauta de son âne, et Caleb lui demanda « Quel est ton désir ?» Elle lui répondit « Accorde-moi un cadeau. Puisque tu m'as établi dans une terre aride, donne-moi aussi des points d'eau. » Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Versets 13 à 19. En pleine conquête, surgissent des histoires de famille où les accords de troc étaient monnaie courante. Othniel, le neveu de Caleb, reçoit la fille de son oncle comme cadeau pour sa bravoure. Celle-ci, marchande avec son père, voulant obtenir des points d'eau. Ça ferait un film d'aventure capé d'épée avec de la romance en prime. Othniel deviendra par la suite le premier des juges libérateurs d'Israël après la mort de Josué. Le texte donne ensuite la liste impressionnante des villes de Juda, puisqu'il y en a plus d'une centaine, sans compter les villages alentour. Cependant, le dernier verset de ce chapitre laisse perplexe. Je le lis. Les descendants de Juda ne réussirent pas à déposséder les Yébousiens qui habitaient à Jérusalem, de sorte qu'ils y vivent encore aujourd'hui avec les gens de Juda. Verset 63. On se pose la question, cette cohabitation était-elle voulue ou forcée? Était-ce parce que les Israélites ne pouvaient pas, ou plutôt ne voulaient pas, déloger ces Yébousiens? Encerclés comme ils l'étaient en plein milieu de la tribu, il n'est pas concevable qu'ils aient pu continuer à occuper Jérusalem sans l'accord des Israélites pour des raisons qui ne nous sont pas précisées. Nous voici arrivés au chapitre 16 où il est question de l'héritage des deux tribus de Manassé et d'Éphraïm. Parce que Joseph, leur père ancestral, avait maintenu toute la famille en vie lors d'une famine de 7 ans, le patriarche Jacob avait ordonné que ses deux fils héritent comme leurs oncles. Joseph a donc reçu une double part d'héritage. Je commence à lire en compressant. Les descendants de Joseph reçurent par tirage au sort un territoire dont la frontière commençait au Jourdain près de Jéricho, à l'est des sources qui alimentaient la ville pour aboutir à la mer Méditerranée. Verset 1 à 3. Ces sources situées au pied du Tel es Sultan sont aujourd'hui connues sous le nom de Fontaine d'Élysée. Les territoires de ces tribus situées au centre du pays étaient des régions magnifiques et très fertiles. Je finis le chapitre un peu plus loin. les gens d'Éphraïm ne dépossédèrent pas les Cananéens établis à Guézer. Ceux-ci continuèrent à vivre au milieu des gens d'Éphraïm qui leur imposèrent des corvées. Ils y demeurèrent jusqu'à aujourd'hui. Verset 10. Comme précédemment, la tribu de Juda, celle d'Éphraïm a désobéi à l'Éternel en choisissant, pour des raisons mercantiles, d'exploiter les Cananéens d'une ville-état de leur territoire au lieu de les chasser. Plus tard, cette même peuplade se rendra maître de toute la tribu et la mettra en esclavage. Cette ville sera conquise par un pharaon d'Égypte qui la donnera en dot à Salomon 5 siècles plus tard lorsqu'il épousera sa fille. Nous voici maintenant au chapitre 17 que je commence à lire en compressant. Puis le tirage au sort attribua un patrimoine à la tribu de Manassé, fils premier-né de Joseph. Verset 1. Cette tribu s'est divisée en deux et la première moitié s'est déjà installée sur la rive orientale du Jourdain. Ce tirage au sort concerne donc l'autre partie. Je continue plus loin. Tselophad, descendant de Manassé, n'eut pas de fils. Il n'eut que des filles qui s'appelaient Mala, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles allèrent trouver le prêtre Éléazar, Josué, fils de Noun, et les responsables du peuple. Elles leur dirent, « L'Éternel a ordonné à Moïse de nous donner un patrimoine comme aux hommes de notre tribu. » On leur attribua donc un patrimoine comme aux frères de leur père, conformément à l'ordre de l'Éternel. Verset 3 et 4. Ces cinq filles de la descendance de Manassé vont voir le pouvoir administratif et réclament haut et fort leur dû qu'elles obtiennent. Cet incident montre que les femmes israélites avaient des droits alors que dans toutes les autres peuplades, elles étaient considérées au même titre que le bétail. Je continue plus loin. Cependant, les gens de Manassé ne réussirent pas à déposséder les habitants de ces villes et les Cananéens se maintinrent dans le pays. Même lorsque les Israélites eurent accru leur puissance, ils leur imposèrent des corvées, mais ne les dépossédèrent pas. Versets 12 à 13. Toujours le même air de musique. Comme Juda et Éphraïm, Manassé profite de la présence des Cananéens pour les exploiter un maximum au lieu de les chasser comme l'Éternel le leur avait ordonné. Cette désobéissance se retournera contre eux et les mordra cruellement. Je continue. Les descendants de Joseph vinrent se plaindre à Josué en disant « Pourquoi nous as-tu attribué par le sort seulement une part du pays alors que l'Éternel nous a tellement bénis jusqu'à présent que nous sommes devenus très nombreux. » Josué leur répondit, « Si vous êtes tellement nombreux, et si la région montagneuse d'Éphraïm ne vous suffit pas, allez donc vous défricher du terrain dans les forêts appartenant aux Phéréziens et aux Réphaïm. » Versets 14 à 15. Il y a de l'eau dans le gaz. Les descendants de Joseph sont pas contents de leur héritage qu'ils jugent trop petit. Ils viennent devant le mur des lamentations pour geindre, espérant bien obtenir une addition à leur territoire, vu que Josué était un des leurs, de la tribu d'Éphraïm. Mais lui ne voit pas les choses de cet œil et leur dit en substance d'aller eux-mêmes défricher ce dont ils ont besoin, après en avoir chassé les habitants. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Les fils de Joseph répliquèrent. Il est vrai que la région montagneuse ne nous suffit pas, mais tous les Cananéens qui habitent dans les plaines de Beth-Shéan et des villes voisines, ainsi que ceux de la vallée de Jisréel, possèdent des chars de fer pour combattre. Alors Josué dit aux gens d'Éphraïm et de Manassé, descendants de Joseph, « Vous êtes un peuple nombreux et fort. Vous ne serez pas réduits à un lot unique. » Vous posséderez toute la région montagneuse couverte de forêts, vous la défricherez et vous l'occuperez jusqu'à ses limites extrêmes. Vous en déposséderez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur puissance. Versets 16 à 18. Ces chars de combat à deux roues étaient bardés de plaques de fer, donnant l'avantage dans les batailles en plaine. C'est pourquoi les Israélites s'étaient d'abord installés dans les régions montagneuses. Donc, ils viennent à Josué avec leurs excuses. Mais lui ne l'entend pas de cette oreille et il enfonce encore le clou. Au lieu de leur donner un nouveau bout de terrain, il leur dit, encore une fois, d'aller conquérir les territoires dont ils ont besoin, ce qui n'est pas ce que les descendants de Joseph voulaient entendre. Apparemment, leur foi en l'Éternel était pour ainsi dire inexistante, car leur démarche est dictée par la peur. Ils ont une vision des choses tout à fait opposée à celle de Caleb, qui est venu voir Josué pour obtenir une ville qu'il avait tout à fait l'intention de conquérir, ayant confiance en une intervention de Dieu en sa faveur. Ce passage enseigne que les Israélites devront agir avec foi en l'Éternel s'ils veulent effectivement occuper tout le pays qu'il leur a donné. Moi aussi. Si je veux avoir du succès dans ce que j'entreprends, je dois marcher en plaçant toute ma confiance en mon Dieu, tel qu'il s'est révélé en la personne du Christ.